Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Micro Rebelle Hebdo, comme tous les vendredis de 18h à 19h sur microrebelle.fr et rediffusée sur Radio PFM 99.9 à Arras. Micro Rebelle propose chaque semaine un agenda social et culturel, une revue d'actualité de presse, des infos sur les luttes, les événements dans le bassin minier ou dans le monde, à travers des interviews, des chroniques et de la musique libre. Au programme de cette semaine, chargé l'agenda social, la chronique d'Aurélie, le communiqué de l'association ACAD, un autre communiqué, celui de Human Rights Observer, sur de récentes expulsions de migrants et migrantes à Calais, la revue de presse locale et internationale de Roxane, la chronique de Lucien sur la Commune de Paris de 1871, une interview de Dominique Dauchaud, professeur syndiqué du SNUIPP, sur la situation de l'enseignement à distance et sur les conditions sanitaires d'un retour à l'école. Et pour terminer, un reportage de Roxane sur une mobilisation en soutien à Ali Touré, jeune lycéen détenu en centre de rétention administrative à Léquin depuis début février. Le tout ponctué de musique libre. Tout de suite, je vous propose l'agenda. Alors samedi 10 avril à 9h30, rassemblement à Douvrin devant la Française de mécanique du groupe PSA devenu Stellantis. Suite à l'annonce en février dernier d'une délocalisation d'activités en Hongrie. Je vous lis un extrait d'un article du syndicat Force Ouvrière. Le secteur automobile fait aujourd'hui de nombreuses incertitudes et inquiétudes face aux contraintes et normes imposées au titre de l'enjeu climatique. En effet, l'arrêt du moteur thermique en 2040, échéance qui pourrait être rapprochée à 2030 du fait de décisions de plusieurs pays, aura un impact considérable sur les emplois. Là où 10 personnes... Excusez-moi, je me suis perdue dans ma phrase. Là où 10 personnes sont nécessaires pour la construction d'un moteur thermique, il en faut 2 pour un moteur électrique. Les salariés de la Française de mécanique, qui fabrique depuis de nombreuses années des moteurs, sont d'autant plus inquiets que, contrairement à de premières assurances, les moteurs actuellement produits sur le site, y compris en perspective de leur évolution vers des moteurs hybrides, pourraient être fabriqués en Hongrie à l'avenir. Si tel était le cas, le site serait amené à cesser son activité à horizon 2025. Et ce n'est pas la perspective de l'usine de batteries électriques ACC qui devrait s'installer sur le site qui suffit à rassurer. Combien d'emplois pourraient en effet être repris ? Nul ne le sait. Alors, le site de PSA comptait 6000 salariés dans les années 80, mais désormais les effectifs sont réduits à 1600 en comptant actifs et intérimaires. La moyenne d'âge des salariés est de 47 ans. C'est donc au nom de la sauvegarde des emplois qu'a lieu une marche autour du site de la Française de mécanique à Douvrin, samedi 10 avril à 9h30. Lundi 12 avril à 19h, assemblée générale ouverte au théâtre occupé Sébastopol de Lille. Samedi 17 avril, mobilisation contre le projet de serre géante Tropicalia à Montreuil-sur-Mer à 14h. Je vous lis l'appel du collectif organisateur. En mai 2020, émergeant de la torpeur du premier confinement, s'amorce la dynamique des 17. Une constellation de collectifs appelle à agir contre la réintoxication du monde. L'appel a été suivi. Le 17 juin 2020, plus de 70 actions, blocages, occupations se sont déployées simultanément à travers le pays. Puis le 17 novembre, des dizaines d'actions ont eu lieu. Une nouvelle journée d'action est prévue le samedi 17 avril 2021. Elle coïncidera avec la journée internationale des luttes paysannes. La crise sanitaire que traverse l'humanité aurait dû faire prendre conscience au monde et à nos gouvernants de l'urgence écologique et sociale. Il n'en est rien. Les dérives d'un productivisme débridé s'emballent à nouveau avec des projets inutiles, climaticides, destructeurs de terres et de ressources. Le tout sans considération pour notre futur. Déploiement de la 5G, industrie du nucléaire et ses déchets, élevage intensif, etc. En parallèle, le gouvernement français propose de criminaliser le renouveau des mouvements d'action écologistes et s'entête à faire passer en force la loi de sécurité globale. Il est plus que jamais nécessaire d'affirmer qu'une autre voie est possible, moins destructrice des écosystèmes. Pour cette troisième vague d'action, non à la réintoxication du monde, le 17 avril 2021, le collectif Non à Tropicalia a signé l'appel, comme d'autres nombreux collectifs de lutte, contre les grands projets inutiles et imposés. Car notre opposition à Tropicalia s'inscrit naturellement dans ce panel de lutte. Elle participe à tout ce que dénonce Agir 17, à savoir l'artificialisation des sols, les mobilisations des matières premières, la gabegie énergétique, 28 degrés toute l'année dans la serre, le mépris de la biodiversité locale et importée, des fonds publics au service d'un caprice anachronique. Soyons nombreux à ce rassemblement que nous souhaitons festif, bruyant, coloré. Cette mobilisation donc a lieu le samedi 17 avril à 14h à Montreuil-sur-Mer. Le collectif organisateur appelle au respect des gestes barrières et du port du masque. Il propose sur son site le téléchargement d'une attestation dérogatoire pour manifestation. Information sur le www.nonatropicalia.fr. Également, samedi 17 avril, à 15h à Lille, cette fois-ci, manifestation contre la réforme de l'assurance chômage, au départ du théâtre Sébastopol. Je vous lis l'appel du syndicat solidaire. Depuis le 4 mars, un vaste mouvement d'occupation des lieux culturels, dont les théâtres, se déroule un peu partout sur le territoire. Ce sont désormais plus de 90 lieux culturels qui sont occupés dans de très nombreuses villes. Dans le Nord, ce sont les théâtres Sébastopol à Lille, le Colisée à Roubaix, l'Hippodrome à Douai. Le retrait de la réforme de l'assurance chômage et le renforcement des droits des chômeurs, chômeuses et des précaires, ainsi que ceux et celles des intermittents, intermittentes du spectacle, et plus généralement les intermittents, intermittentes de l'emploi, sont au centre des revendications exprimées, et ce, par-delà la réouverture des lieux culturels. Depuis le début du mouvement, l'Union syndicale solidaire Nord s'implique et soutient cette lutte. Nous appelons à converger, à en faire un vrai enjeu interprofessionnel et à agir pour élargir. Cette mobilisation commune concerne évidemment les droits des chômeurs chômeuses et des précaires, des intermittents intermittentes, mais plus encore, il s'agit de contrer la politique de casse sociale, de reprendre l'offensive, de défendre notre société sociale. Notre sécurité sociale. Cela ne concerne donc pas que le secteur de la culture, c'est bien une lutte interprofessionnelle qui doit permettre de faire converger le secteur privé et le secteur public, les précaires, les chômeurs chômeuses, les entreprises victimes de plans sociaux, les services publics touchés par les suppressions de postes. Manifestation donc samedi 15 avril à 15h contre la réforme de l'assurance chômage au départ du théâtre Sébastopol à Lille. C'est fini pour l'agenda. Alors, à présent, je vous propose d'écouter la chronique hebdomadaire de Aurélie.
Dans Bastamag, cette semaine, un article paru le 6 avril et écrit par Talia Crèche à propos du surmenage des enseignants français. L'article met en avant un fait indéniable. Les enseignants français figurent parmi les moins bien payés d'Europe. En septembre 2020, comme le rappelle l'article, le gouvernement français a lancé une opération visant à entraîner une évolution profonde du système éducatif. Parmi les changements évoqués, revaloriser à partir de 2021 les salaires des enseignants et enseignantes. Cette revalorisation devrait coûter 400 millions d'euros, budget alloué par l'État. Les jeunes professeurs devraient obtenir une prime d'attractivité, comme le souligne l'article. Bien que le salaire des enseignants ait évolué au cours des dernières décennies, je cite, « il ne l'a pas fait aussi vite que le coût de la vie. C'est pourquoi les enseignants perdent en pouvoir d'achat. » Nous avons tous remarqué que depuis quelques années, l'éducation nationale peine à attirer des jeunes professeurs. Pourquoi ? Les conditions sont loin d'être favorables pour les professeurs. Bien que souvent, l'on entende que les professeurs n'ont pas le droit de se plaindre car ils ont de nombreuses vacances, les professeurs rencontrent de réelles difficultés, de plus en plus accrues au quotidien. Si le coronavirus n'a rien arrangé à cette situation, il l'a empiré. La charge mentale des enseignants est mise à rude épreuve. Si d'ordinaire les cours s'arrêtent en fin de journée, en distanciel, ce n'est pas toujours le cas. Ne mérite-t-il pas plus de considération ? Face à ces critiques, le ministère de l'Éducation nationale propose aux enseignants la possibilité de faire des heures supplémentaires. L'article reprend le témoignage de Sarah, qui explique que cela serait difficile. Je cite « Dans les entreprises privées, quand les gens font des heures supplémentaires, ces heures sont majorées. Elles sont payées plus. Pour les professeurs, ce n'est pas le cas. L'heure supplémentaire est même moins bien payée que l'heure normale, à partir du milieu de carrière. Et puis, tout le monde ne peut pas en faire. Ce n'est pas facile, par exemple, quand on a des enfants à charge. Beaucoup de collègues sont dans un état de fatigue nerveuse importante. Prendre des heures supplémentaires les amène parfois à se mettre en arrêt maladie. En Europe, la France est parmi les pays les moins bien classés concernant la rémunération des professeurs, occupant la 7e place du classement. Nous pouvons alors nous demander si le gouvernement français a vraiment réfléchi à cette situation. 400 millions d'euros suffisent-ils à revaloriser un métier qui ne l'est plus depuis des années ? Si au premier temps du Covid, le gouvernement valorisait, par ses belles paroles, les enseignants tout comme les infirmiers, les médecins, aujourd'hui le constat est le même. Rien ou presque n'a changé. Aux yeux de Sud-Éducation, je cite, « C'est une somme dérisoire rapportée aux plus d'1 130 000 personnels dans l'éducation nationale. » En faisant le calcul, nous pouvons nous rendre compte que cela signifie une augmentation moyenne d'environ 29 euros brut par mois et par agent.
Alors, on est en train d'entendre le morceau Stone Flow du musicien chilien Ed Ned Hart, qui joue tous les instruments, dont le saxophone dans cet album vivifiant du nom de Mutuo. Alors nous relayons maintenant une communication du collectif ACAD pour anti-compteurs communicants Artois Douaisy. Je vous en lis un extrait. Les quelques informations qui suivent sont tirées d'un document écrit pour le mois d'avril dans le numéro 161 de la revue L'Âge de Fer. Le titre de l'article, Manuel d'autodéfense contre la Startup Nation, la 5G, tu n'en veux pas. Tu as beau en être absolument convaincu, il n'est pas toujours facile de répondre au discours dominant établi par ses promoteurs. T'y es posé, fait donc de toi un marginal exposé au quolibet. Sauf si tu montres à ton interlocuteur à quel point ses arguments sont creux et qu'il les reprend vraisemblablement sans y avoir vraiment réfléchi. Parce que, disons-le, s'il y a bien un truc de ridicule avec la 5G, ce sont les arguments de ses promoteurs. Voici quelques prises d'aïkido oratoire anti-5G. Premier argument. On n'arrête pas le progrès. La 5G, c'est le progrès. Alors, la question, première question à se poser à ton interlocuteur est peut-être de savoir ce qu'il entend exactement par progrès. Généralement, il sera bien embêté car ses phrases sont plus des mantras que de réelles réflexions. Mais bon, sa réponse au final pourra certainement se classer dans l'une de ces deux grandes catégories. Première catégorie, le progrès, ce sont les innovations technologiques. Et vice-versa ? En effet, ce qui est sous-entendu ici, c'est qu'une innovation technologique est en soi un progrès. Admettons que la mise au point du cachet de paracétamol, de la guitare sèche ou de la pompe à insuline constitue d'appréciables évolutions. L'invention du glyphosate et de la mine antipersonnelle paraissent nettement moins sympathiques. Toute innovation technologique n'est donc pas souhaitable. Catégorie numéro 2. Le progrès, c'est la longue évolution de l'humanité qui lui a permis de vivre de mieux en mieux. Admettons, avec un masque sur le nez, que nous vivions mieux aujourd'hui qu'il y a 1000 ou 2000 ans. Est-on sûr de vivre mieux qu'il y a 50 ans, c'est-à-dire avant l'emballement de la société de consommation ? Deuxième argument. La 5G va permettre de formidables innovations. Demande-lui donc de quelle innovation il parle. Il a de fortes chances de reprendre à son compte l'un des trois arguments rabâchés à longueur d'onde mainstream par les pros 5G. La voiture autonome. Ah, ça n'est rien d'autre qu'un taxi ou un VTC sans le chauffeur qui va avec. À part la destruction d'un emploi, on ne voit pas l'intérêt fondamental d'une telle innovation. On pourra télécharger beaucoup plus vite. Oui, mais tu auras beau pouvoir télécharger un film en 2 secondes, il te faudra toujours environ 1h30 pour le regarder. Quand tu auras téléchargé 45 heures de vidéo en 1 minute, tu auras l'air malin. La téléchirurgie. En quoi le fait que le chirurgien ne soit pas dans la même chambre que le patient qui l'opère constitue un progrès ? Voilà, donc c'est un extrait d'une information du mensuel L'Âge de Fer. Pour vous abonner à la revue mensuelle, allez sur le site l'âgedefer-lejournal.fr. Pour en savoir beaucoup plus, lire l'article complet sur le site du collectif ACAD en date du 8 avril. Un autre document tiré de la revue L'Âge de Fer paraîtra samedi 10 avril. C'était un communiqué du collectif ACAD, anti-compteur communicant Artois Douaisis, qui s'oppose au compteur communicant et à la 5G. Vous pouvez avoir d'autres informations sur le site collectif-acad.fr. Alors, on relaye également le communiqué de plusieurs associations calaisiennes, dont Human Rights Observer. Mardi 6 avril, entre 15h et 18h, 6 opérations d'expulsion de grande ampleur se sont déroulées à Calais. Sans aucune opération de mise à l'abri concomitante, les personnes exilées ont été expulsées de leur lieu de vie. Les équipes de Human Rights Observer ont dénombré au moins 126 tentes, 170 bâches et 77 couvertures prises aux personnes exilées par les forces de l'ordre. Au moins 76 de ces tentes contenaient des affaires personnelles qui n'ont pas pu être récupérées. Les personnes expulsées indiquent avoir notamment perdu dans cette opération de nombreux objets de valeur tels que des documents d'identité, des médicaments, des téléphones portables ou encore de l'argent. Ces expulsions sont intervenues alors que les températures sont tombées à 3 degrés. Les autorités ont choisi de ne pas activer le plan grand froid, tout en enlevant à près de 300 personnes leur abri de fortune, laissant ainsi sans protection contre la grêle et la neige. Le commissaire central de Calais, présent au moment de ces opérations, a justifié ces expulsions sur la base du flagrant délit d'occupation de terrain. Et ce, alors même que la flagrance ne peut pas être une base pour expulser. Il est particulièrement éloquent qu'une de ces opérations d'expulsion intervienne 11 jours seulement après une décision de justice favorable aux habitants d'un de ces terrains. En effet, par une ordonnance du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lille avait rejeté la requête en référé « mesure utile » de la commune de Calais visant à faire expulser le terrain habité par la communauté érythréenne. Le juge avait notamment relevé que sur ce terrain, les services de l'État ont érigé, au profit des migrants, des installations sanitaires et où l'association La Vie Active, mandatée à cet effet, distribue des vivres et de l'eau potable 2 fois par jour. Alors que le juge administratif a rejeté la demande d'expulsion d'un de ces terrains, l'utilisation du régime pénal de l'enquête de flagrance pour parvenir à cette fin apparaît alors d'autant plus abusive. Cette manœuvre de contournement des voies légales est au service d'une politique répressive de harcèlement des personnes exilées à Calais. Ces expulsions constituent de la part des autorités un pas de plus dans l'inhumanité et le détournement du droit à Calais. Ceci est un communiqué de Human Rights Observers Auberge des migrants, La cabane juridique, Project Play, Collective Aid, Utopia 56 Calais, Salam Nord Pas-de-Calais, Refugee Infobus. Alors maintenant, je vous laisse avec Roxane et sa revue de presse.
Trois informations aujourd'hui dans cette très brève revue d'actualité. Une enquête vidéo du Monde révèle des faits de violences policières commises par un commissaire, un certain P, commissaire de police à Paris, pendant les manifestations contre la loi de sécurité globale le 28 novembre 2020. C'est la suite de la plainte déposée par le reporter syrien Amir Al-Albi qui porte ses fruits, ainsi que la contribution de nombreux témoins ayant envoyé leurs images, photos et vidéos. L'analyse de dizaines d'heures d'images a permis au Monde d'identifier un commissaire responsable de plusieurs coups portés à des journalistes ce jour de mobilisation qui a réuni plus de 130 000 personnes. Coups portés, dont l'un a sévèrement blessé au visage le reporter syrien Amir Al-Albi, porteur de la plainte. Affaire à suivre. Désormais une information en Europe. Des émeutes ont eu lieu en Irlande. Les murs de la paix brûlent de nouveau en Irlande du Nord. Malgré les appels au calme de Londres, de Dublin et de Washington, de nouvelles violences ont éclaté jeudi soir 8 avril à Belfast, où la police anti-émeute, ciblée par des jets de pierre et de cocktails Molotov, a repoussé des centaines de manifestants républicains à l'aide d'un canon à eau. Depuis le 29 mars, chaque nuit apporte son nouveau lot d'échauffourées et de violences. 11 nuits d'émeutes sporadiques qui ont démarré à Derry avant de s'étendre à Belfast et dans trois villes voisines, Carrickfergus, Ballymena et Newtown Bay, et qui se déroulent essentiellement dans la communauté unioniste. Des groupes d'adolescents, certains âgés d'une dizaine d'années seulement, armés de briques, de barres de fer et de cocktails Molotov, affrontent les forces de l'ordre, retranchées derrière des Land Rovers blindés et des canons à eau. Tout ceci est lié aux conséquences sociales et économiques du Brexit qui vont en la défaveur des Irlandais. Europe toujours, géopolitique maintenant, trouble géopolitique entre l'Europe et la Turquie. Un affront affligé à la présidente de la Commission européenne par le président turc fait la première page des journaux. Mardi, lors d'une rencontre en Turquie entre Recep Tayyip Erdogan, Charles Michel et Ursula von der Leyen, aucune chaise n'avait été installée pour la présidente de la Commission européenne, obligée de s'asseoir sur un canapé à l'écart des deux hommes politiques. Très critiquée, Ankara se défend de toute faute et impute la responsabilité à l'Union européenne. Ce traitement est-il explicable par un pur machisme bête et méchant, ou bien est-il lié à une opération plus délibérée et stratégique d'humiliation de la présidente de la Commission européenne, pour montrer son ferme refus de revenir sur les accords d'Istanbul ? Petit rappel, la Turquie s'est retirée des accords internationaux appelés accords d'Istanbul, contraignant les États à prévenir et à combattre les violences conjugales. La Constitution et la réglementation intérieure de la Turquie seront désormais la garantie des droits des femmes, a assuré Zehra Zomrut Selçuk, ministre de la Famille, du Travail et des Services Sociaux. La protection juridique des victimes de violences conjugales en reste profondément contrite, car ceci s'est produit dans un contexte où les plaintes pour violences conjugales se multipliaient en Turquie. Un élément de contexte, l'année dernière, selon le groupe de défense des droits We Will Stop Feminicide, 300 femmes ont été assassinées par leur mari dans ce pays. Les autres sujets de tractation qui menaient Ursula von der Leyen et son collègue européen Charles Michel, et qui ont visiblement échoué, visaient à demander au président turc d'arrêter les persécutions des opposants politiques ainsi que des Kurdes. On rappelle que la Turquie a annoncé le 15 février 2021 718 arrestations dans les milieux pro-kurdes et poursuit toujours sévèrement tout opposant, qu'il s'agisse de militants, de citoyennes ou de journalistes. Par ce geste, il affirme et confirme son étanchéité devant les arguments qui touchent aux droits humains, et tout particulièrement ceux accordés aux humains de sexe féminin et ou aux humains qui ne sont pas d'accord avec lui. Par ailleurs, l'image de Charles Michel, qui, fort peu galant par ailleurs, a lui aussi installé son séant sur une des seules deux chaises, est terriblement affligeante et incohérente. Elle entame gravement la crédibilité de la politique européenne, tant dans sa cohérence que dans sa capacité à régler par la diplomatie de tels enjeux géopolitiques.
À présent, je vous propose d'écouter la chronique hebdomadaire et historique de Lucien sur la Commune de 1871.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Micro Rebelle. Bienvenue dans le cadre de notre chronique « Vive la Commune » chaque semaine jusque fin mai à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Aujourd'hui, quatrième opus de cette chronique. Et nous nous intéressons à l'action sociale de la Commune. Avec une double précision, nous n'évoquerons pas en profondeur ce qui concerne les femmes, puisque nous avons déjà consacré une émission, la deuxième à cet aspect, et nous n'aborderons pas davantage ce qui touche à l'éducation, à l'école, qui fera l'objet d'une prochaine émission. L'action sociale de la Commune. Nous vous proposons, en guise d'introduction, un tableau d'ensemble à partir d'un extrait du livre de Dominique Lejeune, La France des débuts de la Troisième République. Dominique Lejeune est historien et ses travaux concernent en particulier l'histoire contemporaine.
La Commune esquisse une œuvre que sa brève durée ne lui permet pas toujours de concrétiser. Elle représente une certaine forme de la République démocratique et sociale, voulant dépasser le simple régime libéral et parlementaire. La sociale, comme on continuera à dire par la suite, proclame les principes de l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, et de la séparation des églises et de l'État. Dévoile le 19 avril un programme de décentralisation nationale, texte présenté par Vallès et d'inspiration nettement proudhonienne, qui dit « Que demande Paris ? L'autonomie absolue de la commune étendue à toutes les localités de France et assurant à chacune l'intégralité de ses droits et à tout Français le plein exercice de ses facultés et de ses aptitudes comme homme, citoyen et travailleur. L'autonomie de la commune n'aura pour limite que le droit d'autonomie égal pour toutes les autres communes adhérentes au contrat dont l'association doit assurer l'unité française. » La Commune proclame par ailleurs l'élection au suffrage universel de tous les agents employés par les administrations, la justice et l'enseignement, le principe de l'instruction gratuite, laïque et obligatoire. Un programme est dressé pour l'enseignement technique et l'enseignement religieux est supprimé à l'école. L'opéra, des musées, des bibliothèques comme la Bibliothèque nationale sont réorganisés. La Commune supprime les armées permanentes et, grâce à la Commission du Travail, elle a également un programme social de mouvement urbain, se cherchant une assise rurale. Elle dit « la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail à tous ». Le 7 mai, elle décide de la remise des loyers dus pendant le siège. La prolongation des échéances. Le droit de retirer gratuitement les vêtements, instruments de travail, meubles et livres d'une valeur inférieure à 20 francs déposés au Mont-de-Piété. La Commune décrète l'expropriation des ateliers abandonnés, mais une seule réquisition devient effective, celle d'une ancienne coopérative ouvrière, la Fonderie Brosse, dans le 15e arrondissement, que le gérant s'était indûment approprié quelques années auparavant, dépossédant les ouvriers. Le travail de nuit dans les boulangeries est interdit, mesure que les ouvriers boulangers demandaient depuis longtemps, mais qui passait pour une intolérable intervention dans les modestes affaires privées. L'application en est décidée pour le 3 mai et il ne semble pas y avoir eu de sanctions. Les amendes et retenues sur les salaires sont supprimées, des ateliers coopératifs d'armes sont créés. Le pain est taxé le 3 mai seulement, mais les réserves et les arrivages alimentaires de Paris ont toujours été suffisants. La Commune supprime la distinction entre femmes mariées et concubines à partir du 17 mai, ainsi qu'entre enfants légitimes et enfants naturels, mais elle ne s'occupe pas de la question du divorce. Immense est la vogue, en particulier dans les clubs, de l'expression d'aspiration socialiste, envisageant entre autres les problèmes de production. Mais le gouvernement de la Commune n'y répond que partiellement. La distance entre les discours et la réalité est considérable. La proclamation du comité central de la garde nationale le 20 mars le montre bien. Le prolétariat revendique « En face de la ruine de la patrie et de toutes ses espérances, son devoir impérieux et son droit absolu de prendre en main ses destinées et d'en assurer le triomphe en s'emparant du pouvoir. » Le 23 mars, le manifeste du comité central est encore plus socialiste. Il déclare « L'indépendance de la commune est le gage d'un contrat dont les clauses librement débattues feront cesser l'antagonisme des classes et assureront l'égalité sociale. »
Nous allons maintenant entrer davantage dans le détail des mesures sociales prises par la commune, avec une question transversale. Ces mesures ont-elles un caractère modéré ou, au contraire, un caractère radical ? Nous faisons un état des lieux, à partir de l'article « Une rupture avec le vieux monde » de l'historienne Laure Godineau, dans le numéro spécial de Politis, consacré à la commune, et à partir de l'article « Pas de révolution sans attenter à la propriété privée » dans le dossier spécial « 150 ans de la commune » de Alternative Libertaire. Tout d'abord, un rappel du contexte.
Rappelons que la Commune a disposé de peu de temps, dans une situation de véritable guerre avec Versailles à partir de début avril. Qu'après le conflit franco-allemand et le siège, la situation économique et sociale à Paris est dramatique. Et qu'enfin, les élus de la Commune doivent faire avec leurs différences, assurer la gestion de leurs arrondissements et composer avec les comités locaux, les cercles de légion de la garde nationale, les clubs, etc.
Et pourtant, en 1885, dans Parole d'un révolté, l'anarchiste Kropotkine n'incrimina pas que le manque de temps pour expliquer la modestie des réalisations sociales de la Commune. Pour lui, les socialistes eux-mêmes ne se sentaient pas l'audace de se lancer à la démolition de la propriété individuelle. On cherchait à consolider d'abord la Commune en renvoyant à plus tard la révolution sociale, alors que l'unique moyen de procéder était de consolider la Commune par la révolution sociale. Alors, quelles furent les mesures prises ? Nous allons en examiner sept grandes familles, sept grands domaines. Le logement, le microcrédit, le secours aux indigents, les retenues sur salaire, le travail de nuit, les coopératives et enfin les pensions. On commence donc par ce qui concerne le logement.
La question des loyers qui grevaient les budgets populaires est centrale. Faisant fi de la misère parisienne, l'Assemblée nationale avait envisagé, début mars, de mettre fin au moratoire des loyers accordés pendant la guerre. Après le 18 mars, le comité central de la garde nationale avait interdit toute expulsion de locataires. À sa suite, dès le 29 mars, la Commune déclare « Considérant que le travail, l'industrie et le commerce ont supporté toutes les charges de la guerre et qu'il est juste que la propriété fasse sa part de sacrifice, nous décrétons la remise générale aux locataires des termes trimestriels d'octobre 70, janvier et avril 71. Et toutes les sommes déjà payées par les locataires pendant les 9 mois écoulés seront imputables sur les termes à venir. »
Par ailleurs, durant le printemps, les mairies doivent faire face à des demandes d'abris, venues en particulier des habitants des zones bombardées par l'armée versaillaise. Le décret du 24 avril prévoit donc la réquisition des logements vacants abandonnés par ceux qui ont fui la capitale depuis le 18 mars, accompagné d'un état des lieux dont copie doit être donnée aux représentants des possesseurs. Cette mesure s'inscrit pour partie dans le prolongement des réquisitions de logements envisagées au moment du siège. Elle est conçue comme une sanction contre les francs-fileurs qui ont déserté le Paris de la Révolution. On a peu de renseignements concrets sur son étendue. Il n'en reste pas moins qu'elle est également pensée pour mettre les logements abandonnés à la disposition des nécessiteux et des gardes nationaux sans logis. Des élus de la Commune considèrent cependant qu'il aurait fallu apporter un correctif au décret du 29 mars pour que tous ceux qui n'avaient pas eu à souffrir du siège et s'étaient même enrichis soient tenus de verser le montant de leur loyer dans les caisses municipales. Cela aurait pu constituer une rentrée d'argent importante et aurait surtout permis de réaliser pleinement l'objectif d'équité et de justice sociale. Après cette thématique du logement, les mesures sociales prises par la Commune concernant le microcrédit.
À l'époque, les familles nécessiteuses pouvaient mettre des objets, montres, bijoux, vêtements, linge, matelas, en gage au mont-de-piété, en échange de quoi on leur accordait un petit emprunt. Elles ne récupéraient l'objet qu'en remboursant la somme, augmentée d'un intérêt de 12% environ. Les prêts sur gage consentis par le mont-de-piété était un élément central dans la vie du peuple parisien. Le nombre de biens engagés était considérable, reflétant la précarité généralisée accrue au cours de cette année terrible. Petits commerçants et artisans avaient par ailleurs fréquemment recours à ce moyen de crédit pour fonctionner.
Antichambre de la misère, le Mont-de-Piété était une société privée avec des actionnaires, plus de 784 000 francs de bénéfices, en 1869. Très timide, la Commune suspendit le 30 mars les ventes aux enchères. Le 6 mai, elle se contenta d'autoriser la récupération des objets d'une pension inférieure à 20 francs. Et surtout, ne devait-on pas mettre fin à ces établissements qui prêtaient de manière usuraire pour les transformer en un système radicalement différent ? C'est le sens du rapport de la Commission du travail et de l'échange qui préconise leur liquidation. Doit lui succéder une organisation sociale qui donne aux travailleurs des garanties réelles de secours et d'appui en cas de chômage, tandis qu'est envisagée la mise en place d'une banque de crédit populaire. Troisième domaine, le secours aux indigents.
Si la commune se préoccupe des logements, elle essaye également de fournir aux indigents de quoi se nourrir ou se chauffer. Ce sont les mairies d'arrondissement, en liaison avec la commission des subsistances, qui se chargent de cette tâche, en attribuant des bons ou des cartes individuelles et en entretenant des fourneaux ou des cantines fournissant des produits de première nécessité.
On n'en est pas, bien sûr, à la suppression de l'assistance obtenue par une transformation sociale radicale. Et on peut inscrire ces secours dans le prolongement des fourneaux qui existaient durant le siège, tout en pointant leur modestie. Dans l'immédiat, ils contribuent cependant à prendre en compte la misère que connaissent nombre de Parisiens. On aborde maintenant ce qui concerne les retenues sur salaire, c'est-à-dire autour de la question de l'emploi, les amendes infligées aux travailleurs.
La commune interdit les amendes et les retenues sur salaire qui étaient encore fréquentes. Même si elle n'a pas les effets escomptés, une circulaire encourage les mairies d'arrondissement à mettre en place des bureaux groupant les offres et les demandes d'emploi dans le but de faciliter l'embauche et de remplacer les agences de placement privées.
On reste maintenant dans le domaine de l'emploi, du travail, en évoquant en particulier le travail de nuit.
Le 20 avril fut acceptée la revendication des ouvriers boulangers de la suppression du travail de nuit pour leur permettre de rentrer dans la vie commune. Cette interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers retient souvent l'attention. Demandée par ces derniers, elle est globalement mal accueillie et provoque la résistance des patrons.
La mesure paraît parfois secondaire, mais les discussions auxquelles elle a donné lieu révèlent les questionnements des membres de la commune sur l'intervention de l'État dans les relations du travail. Tandis que certains préconisent de laisser les intéressés s'entendre entre eux, Frankel considère que les élus, dont le mandat est de faire des réformes sociales, n'ont pas à consulter les patrons. Toujours concernant le travail et la production, on évoque maintenant la question des coopératives.
Les établissements dépendant directement de la commune, comme la manufacture des tabacs ou des ateliers d'armement, voient quant à eux leur direction changer.
Mais la journée de 8 heures, souhaitée par Frankel, n'y est pas introduite.
Le 16 avril, la commune invita les chambres syndicales à dresser une statistique des ateliers abandonnés par leur patron et à faire l'inventaire des stocks et des instruments de travail. Puis, ces ateliers pourraient être relancés sous le contrôle d'associations coopératives de travailleurs.
Expropriation capitaliste ? Pas vraiment. Et cela montre la timidité de la commune sur la question de la propriété. Un jury arbitral devait statuer sur la cession des 10 ateliers aux associations ouvrières et sur le dédommagement à verser aux patrons. La question des marchés, passée par la ville et la garde nationale, dévoile une nouvelle fois les contradictions de la révolution communale. Par souci d'économie, celle-ci privilégie en effet les grandes entreprises capitalistes qui proposent de bas prix en rognant sur les salaires. Il faut la protestation des associations ouvrières et un rapport impulsé par la commission du travail pour que la commune décide, à la mi-mai, de veiller à mettre fin à cette pratique. Et nous terminons ce tour d'horizon des mesures sociales mises en œuvre par la commune en évoquant les pensions.
Le 11 avril, la commune alloua 600 francs aux femmes de garde nationaux tuées, ainsi qu'une pension annuelle de 365 francs à chacun de ses enfants, reconnus ou non, jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans la classe ouvrière, près du tiers des unions étaient libres et de nombreux enfants conçus hors mariage.
Ainsi, au vu des difficultés auxquelles a dû faire face la commune, du peu de temps dont elle a disposé, comme des divergences de ses élus, il semble in fine difficile d'avoir un avis tranché sur le caractère modéré ou radical, contextuel ou de fond de sa politique sociale. On pourra discuter encore longtemps de la longueur ou de la lenteur de ses débats et de son bilan. Ces controverses nous rappellent malgré tout l'immensité de la tâche à accomplir pour mettre en œuvre la démocratie sociale.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Vous êtes dans l'émission Micro-Rebelle Hebdo, magazine d'actualité sociale. On vient d'entendre la chronique de Lucien sur la Commune de Paris, avec cette semaine la thématique de l'action sociale. Retrouvez la version longue de 20 minutes sur notre site www.micro-rebelle.fr dans l'article « Vive la Commune » opus 4. Alors, je voulais vous proposer une interview d'actualité, celle de Dominique Dauchaud, enseignante et syndiquée du SNUIPP, au sujet de l'enseignement à distance et des conditions sanitaires dans les établissements scolaires. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous la passer. Elle dure 12 minutes. C'est vrai que cet hebdo est très complet. Ceci étant, elle est déjà en ligne sur notre site internet dont je viens de donner la référence. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. On vient d'entendre le morceau Aquila, du même artiste que tout à l'heure, Ed Neidhart, accompagné à la contrebasse par Christian Orellana. Pour terminer ce micro-rebelle hebdo, voici donc le reportage réalisé par Roxane sur le soutien à Ali Touré.
Libéré Ali !
Rassemblement de soutien pour Ali Touré devant le CRA, centre de rétention administrative de l'Équin, mercredi 7
avril 2021.
C'est devant un bâtiment aussi gris que grillagé que se sont donné rendez-vous les soutiens d'Ali Touré ce mercredi matin 7 avril. Ni le froid, ni le vent, ni la présence des forces de l'ordre n'ont empêché la cinquantaine de militants présents de crier leur soutien à Ali et aux autres mineurs isolés, qui vivent des situations juridiques et administratives similaires. Le rassemblement de soutien était organisé à l'initiative du CELA, S-E-L-A-C-G-T, le syndicat étudiant lycéen et apprenti de Valenciennes. Une micro-convergence des luttes, mais une véritable convergence des solidarités avait lieu ce matin-là devant le CRA. En effet, étaient réunis là une poignée de cégétistes, de sudistes, de FI, de ELV, de défenseurs des droits de l'homme, d'anarchistes, de citoyens sans étiquette, comme Paul, qui vient régulièrement visiter les détenus pour leur tenir compagnie. Il y avait aussi des intermittents du spectacle, venus prêter main forte depuis le théâtre Sébastopol occupé. Il y a eu des prises de parole, ainsi que quelques morceaux de musique joués par les artistes du groupe Bonheurs Inutiles, qu'on remercie d'avoir été là et de s'être gelé les doigts pour donner du courage à toute la compagnie. Le rassemblement avait deux objectifs. D'abord, et surtout, demander à la préfecture de réviser sa décision envers Ali Touré, afin de convoquer une nouvelle commission et lui permettre une libération rapide, ainsi que la levée de l'OQTF qui le vise, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. Ensuite, demander la régularisation d'autres prisonniers du centre de rétention administrative qui n'ont commis aucun délit et demandent de pouvoir poursuivre leurs études ou leur travail en France. Parmi les soutiens d'Ali Touré, Yannick, membre du syndicat CELA, nous raconte son histoire.
Il est au lycée François Mansart, un lycée professionnel. Il y a passé deux CAP, il est actuellement en bac professionnel. À ses 18 ans, il a fait une demande de titre de séjour qui lui a été refusée pour une histoire d'une demande similaire en Italie, qu'on appelle les Dublinés. Il a eu une première OQTF, obligation de quitter le territoire, en décembre de l'année passée. Obligation de quitter le territoire à laquelle il s'est soustrait, comme le dit la préfecture, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas présenté pour reprendre l'avion, chose qui est tout à fait normale. Du coup, il y a une deuxième OQTF qui a été prononcée en février, avec cette fois-ci un maintien en détention. Donc Ali est au CRA depuis le 6 février, ça fait plus de deux mois maintenant. Malgré nos interpellations, malgré nos mobilisations, la préfecture reste droit dans ses bottes et refuse d'une part de le libérer et d'autre part de lui donner un titre de séjour, de le régulariser, malgré qu'il coche toutes les cases pour obtenir cette régularisation. Voilà, donc c'est pas acceptable. De toute manière, il n'y a aucune incarcération qui est acceptable. Le soutien aujourd'hui, c'est surtout pour Ali, mais c'est pour tous ceux qui sont incarcérés dans les mêmes conditions. Ali, il est de Valenciennes, et on sait qu'il y en a d'autres dans les mêmes cas partout en France, et généralement, c'est les mêmes cas, ce sont des cas similaires, c'est-à-dire des lycéens, des étudiants qui font le maximum pour être régularisés, et c'est ces gens-là qu'on met dans les centres de rétention.
Comme vient de l'expliquer Yannick, du syndicat étudiants, lycéens et apprentis, Ali a intégré le lycée professionnel François Mansart à Marly pour y préparer et obtenir un CAP en peinture, puis un second CAP de monteur-installateur sanitaire. Puis, il a voulu continuer ses études et il prépare actuellement un bac pro en aménagement et finition du bâtiment, toujours au lycée professionnel François Mansart de Marly. Il ne pose aucun problème, ni en dehors de l'établissement, ni à l'intérieur de l'établissement. Au contraire, les compliments de ses professeurs, de son maître de stage et de ses camarades de classe le confirment. Ali est un garçon qui est agréable, respecte les règles communes, ne demande qu'à s'intégrer et à gagner sa vie. Son désir est de travailler dans le bâtiment. Alors que reproche-t-on à Ali ? Tout d'abord, il faut bien appuyer sur ce point. Ali Touré commet aucun délit. Ce qui lui est reproché est d'ordre purement administratif. En effet, arrivé en France depuis la Guinée, après le décès de sa mère, Ali a été reconnu comme mineur isolé par un juge des tutelles. Il avait alors été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ali a fait environ 4000 km pour atteindre la France. Or, il est passé par l'Italie, où il a fait l'erreur de faire une demande de droit d'asile. En auriez-vous fait autrement dans sa situation ? L'erreur, oui, car à sa majorité, quand Ali a effectué sa demande de séjour en France, auprès de la sous-préfecture de Valenciennes, elle a été rejetée et une première obligation de quitter le territoire français, OQTF, a été prononcée. Par la suite, le recours auprès du tribunal administratif a été lui aussi rejeté et a donné lieu à une nouvelle OQTF prononcée fin 2020. Et c'est là qu'Ali a trouvé sur son chemin l'embûche abyssale de la lourdeur bureaucratique européenne. Comme il est interdit de demander asile dans deux pays européens, Ali s'est retrouvé dubliné. Dubliné, c'est ce terme entré dans le vocabulaire courant qui désigne les demandeurs d'asile qui font l'objet d'une procédure selon le règlement 604-2013-UE du 26 juin 2013, dite procédure Dublin. Autrement dit, il s'agit de ceux qui se voient refuser leur droit d'asile et se trouvent dans l'enfer du flou juridique européen, espérant obtenir une décision dérogatoire favorable. En effet, ne s'étant pas présenté à l'aéroport qui devait l'expulser de France vers l'Italie, car il a ici une vie, des études, un projet pro et des proches, il a été arrêté le 6 février, puis maintenu en détention depuis, pour des raisons purement administratives, sans aucun délit à sa charge, et pour ces deux raisons, seules, que sont cette demande d'asile en Italie et ce refus de se présenter à l'OQTF, il est retenu depuis deux longs mois dans ce centre de rétention administrative de l'ECA. Dernière nouvelle en date, une troisième commission s'est tenue pour étudier son cas et a rejeté sa demande de libération pour la troisième fois. Malgré le vent et le froid qui leur gelaient les doigts, les musiciens des Bonheurs Inutiles ont joué quelques morceaux, ce qui a réchauffé les cœurs et les cordes vocales de ses soutiens, à défaut de réchauffer leurs doigts.
Brique par brique, mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. Brique par brique, mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. Brique par brique, mur par mur, nous détruirons les centres de rétention.
La place des lycéens est à l'école, pas en prison. Ce qui est scandaleux pour les soutiens présents, c'est l'inégalité de traitement entre un jeune qui fait tout ce qu'il peut pour montrer sa bonne volonté, qui est sympa, poli, ne fait pas de conneries et veut simplement trouver un travail dans le bâtiment, et celui de certains délinquants fiscaux, détenteurs de leur carte d'identité française, qu'on laisse dans l'impunité. De plus, c'est aussi la violence du traitement carcéral qui lui est réservée au regard du peu de choses qui lui sont reprochées. C'est pourquoi, selon ce membre de EELV, il est nécessaire de médiatiser l'affaire.
Quand soit là, c'est un soutien. C'est sûr aussi que les gens qui sont plus médiatiques, qui sont des personnalités, ils peuvent encore faire pression, ils peuvent faire quelque chose de plus. On reste mobilisés. Moi, je l'ai dit, je suis prof d'un jeune qui est guinéen, qui est un copain d'Ali. Je sais ce que c'est. Je sais ce courage qu'il faut pour vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivent, comme on leur demande de couper tout lien avec leur pays, de couper tout lien avec ce qui fait leur vie. C'est quelque chose qui est inhumain, quelque part. Et ils le font. Ils se donnent à fond, ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour être dans les règles. Et quand on voit ce qu'il arrive à Ali, on est écœuré, on est dégoûté. Il y a quelque chose de vraiment scandaleux. On ne se résigne pas, on continue.
Pourquoi la revendication concerne le préfet ? Expérimentée en 2018 dans les Hauts-de-France et aussi en PACA, la régionalisation des procédures Dublin a été généralisée en 2018-2019 et celle-ci donne compétence au préfet de région pour l'ensemble de la procédure, détermination, saisine et transfert, assignation et éventuellement prolongation des délais, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, notamment pour le renouvellement des attestations. C'est la raison pour laquelle le but du rassemblement visait à demander au préfet de prendre position sur le sujet. En effet, il est la seule personne en capacité actuellement de faciliter sa libération et l'obtention d'un titre de séjour. Heureusement, ici, des citoyens soutiennent la cause d'Ali Touré, ainsi que d'autres qui sont dans la même situation que lui.
On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
On est là,
on est là, pour l'emploi des salariés et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oi, oi.
Si Macron ne veut pas, nous on est là. On est
là. On est les doigts. Et si Macron ne veut pas, on est quand même là.
Ce que risque Ali à la sortie du CRA, donc Centre de Rétention Administrative, consiste dans une nouvelle OQTF, obligation de quitter le territoire, qui le couperait de son projet pro, de la formation à laquelle il est inscrit à Marly, des amis qu'il a commencé à se faire depuis les 4 années où il habite ici. Rien ne l'attend en Italie. Sa seule erreur a été de demander un droit d'asile en Italie, une demande de droit d'asile de trop, alors qu'il ne connaissait pas à l'époque l'état du droit européen et pensait trouver dans cette procédure une solution à ses problèmes. Malheureusement, le dispositif européen répondant à la procédure Dublin est devenu pour lui un cauchemar. Nombreuses sont les personnes qui, en raison de cette procédure Dublin, se retrouvent déboutées de leur droit à un titre de séjour et se retrouvent ainsi soit dans la précarité, soit dans le dénuement complet. C'est ainsi que Paul recoupe cette lutte avec celle des précaires, qui l'aide aussi en effectuant des maraudes. Paul vient en tant que simple citoyen visiter les détenus pour leur tenir compagnie. Par-delà cette action bénévole, il donne de son soutien à beaucoup de monde.
Toi, on te rencontre devant le CRA parce que tu soutiens souvent des prisonniers que tu viens visiter. C'est une de tes luttes, t'en as d'autres aussi?
Ah ouais, j'en ai d'autres luttes, quoi. Les étudiants, quoi, en précarité, quoi. Du coup, nous y allons souvent aussi là-bas pour essayer de soutenir ceux qui sont un peu précaires et que pour soutenir le soutien moral et tout, quoi, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Qu'on puisse un peu les apporter le soutien moral ou mental et leur faire comprendre que leur pousser un peu de l'avant, quoi, et amener un peu la situation au-delà. Tu
fais ça avec une asso, des assos?
Non, là présentement, c'est un collectif galère au logement et tout ça, quoi. Mais là, pour le centre de détention, ouais, parfois je fais ça avec des copains, quoi. Du coup, c'est personnel, quoi. C'est pas que j'attends l'argent, tout ça. Non, mais c'est chaque personne qui essaie un peu de donner un peu de ses moyens, quoi. Ouais. Moi, je viens de mes moyens, quoi. Je ne viens pas que c'est une asso qui me donne, quoi. Et du coup, c'est aussi que des personnes aussi qui vivent aussi dans des situations qui sont dehors, quoi. Voilà, je les apporte aussi de quoi à manger, quoi. En semaine, je peux passer deux fois, quoi.
Et toi, quand toi-même, tu as été dans cette situation-là, que des gens inconnus viennent te rendre visite?
Non, mais je pense que quand c'est arrivé en France, j'ai quand même des soutiens, quoi. avec des copains qui sont là aujourd'hui, quoi, tu vois. Et du coup, moi, mon truc aujourd'hui, c'est de faire de l'inverse, quoi, tu vois. Et venir aussi, pas seulement, parce que viens pas seulement, même ce peu que je te dis aujourd'hui, je pense aussi aux personnes qui sont dans les maisons, quoi. Du coup, je les apporte tout ça aussi, tu vois, parce que je fais ça, parce que je trouve ça normal, quoi.
Merci à Paul, comme à tous ceux et à toutes celles qui donnent de leur temps et de leurs efforts pour faire exister véritablement la solidarité et résister à l'imposition autoritaire ou injuste d'un droit mal défini ou mal appliqué, mais qui a des conséquences réelles. Pour poursuivre le soutien envers Ali, vous pouvez suivre les activités du syndicat SELACGT Valenciennes, donc le syndicat étudiants, lycéens et apprentis de Valenciennes. Et vous pouvez également lire, pour explorer le sujet plus en amont, un article de Daniel Carlier sur va-info.fr. On se quitte en musique avec la résurgence d'un chant bien connu, par les bonheurs inutiles.
Rebelle Hebdo est terminé. Retrouvez les interviews, reportages et chroniques sur notre site internet www.micro-rebelle.fr. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de l'actualité sociale et des reportages. On se quitte en musique, toujours avec l'artiste Ed Reinhardt et son titre Nang Tani.